Dans le cadre de son émission mensuelle, la radio FM Plus 91 MHz à Montpellier 103.1 à Nîmes vous propose de rencontrer monsieur Daniel Boulet. Monsieur Daniel Boulet, bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs ne vous connaissent pas encore, mais je pense qu'ils auront l'occasion de vous découvrir et surtout de découvrir vos actions, parce que vous êtes un militant, hein, on peut dire ça ?
Oui.
Hein, un militant, hein, c'est pas
un
gros
mot. C'est un concept qui me convient.
C'est pas un gros mot. Hein. Vous êtes un militant au Jardin du Cœur.
C'est cela.
Alors, le Jardin du Cœur, alors on entend toujours parler des Restos du Cœur, mais oui. Les Jardins du Cœur, jamais.
C'est dommage.
Ben oui, non, enfin, non, vous êtes assez d'accord avec moi là-dessus.
C'est moins populaire et moins répandu dans l'opinion publique.
Voilà, hein, on a eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs votre président, Monsieur Michel Landon, il y a quelques semaines.
Exact.
Hein, qui est venu donc nous parler un peu, lui, des oui. Restos du Cœur et de l'ensemble des actions menées par les Restos du Cœur, dont en particulier un tout petit volet sur les jardins.
D'accord.
Mais les jardins, c'est quand même important, parce que c'est finalement, c'est votre raison d'être, parce qu'au départ, pour nourrir les gens, il faut bien qu'il y ait de la culture.
Oui.
Mais avant de parler de ça, qu'est-ce qui vous a appris, vous, de vous lancer là-dedans ?
Alors, c'était tout simplement le souci d'occuper intelligemment ma retraite.
Oui, et surtout pour un agro.
Voilà.
Alors là, c'était retombé un peu dans la soupe, là.
Et j'ajouterais que ça vient aussi du fait que la présidente des Restos du Cœur, l'année où j'ai pris ma retraite, en 2004, était une ancienne collègue de l'agro de Montpellier et de l'INRA, où nous avions travaillé tous les deux.
Dites-moi, donc, c'est une annexe de l'agro, les Restos du Cœur ?
Exactement, oui, parce qu'il y a d'autres liaisons que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc, elle étant partie avant moi à la retraite et étant donc présidente de l'association, je lui avais demandé de me trouver une occupation pour le jour où je deviendrai disponible. Et donc, il s'est trouvé qu'en 2003, au moment où je bouclais mes valises de l'INRA, les conditions pour créer ce Jardin du Cœur ont été réunies. Et donc, Françoise, puisque c'était ma collègue et la présidente, m'a proposé de porter le projet de création de ce Jardin du Cœur, qui donc existe depuis 2004 à Villeneuve-les-Maguelones. Et c'est donc l'action des Restos du Cœur de l'Hérault dont je suis responsable.
Alors pour ça, il a fallu trouver des terrains.
Alors effectivement, la notion, comme son nom l'indique, la notion de Jardin du Cœur, c'est tout simplement une petite entreprise de maraîchage qui suppose bien entendu qu'on ait un terrain. Et les Restos du Cœur, n'ayant pas de financement pour investir dans le foncier, la création de ce type d'activité suppose qu'une soit une collectivité, soit un particulier mette à la disposition de l'association un espace cultivable. Et c'est ce qui s'est produit en 2003. Et c'est là où on retrouve l'INRA.
C'est
que le maire de Villeneuve de l'époque était également salarié de l'INRA.
Bon, et donc, on restait en famille.
Voilà. Et donc, a convaincu son conseil municipal de mettre à disposition de l'association un terrain qui était d'ailleurs le terrain où était l'ancien château d'eau de la commune, qui avait été reconstruit ailleurs entre-temps, jouxtant la Mausson. Et donc, nous avons eu, par convention, une mise à disposition gracieuse de 10 000 mètres carrés de terrain sur lesquels, après travaux d'aménagement, nous avons créé donc ce Jardin du Cœur, qui est ce qu'on appelle dans un jargon administratif un chantier d'insertion.
C'est juste à côté de la gare.
C'est juste à côté de la gare. Il y a d'ailleurs depuis la création, juste à côté de nous aussi, des jardins familiaux de la commune. Donc il y a un ensemble sur cette petite route qui s'appelle le chemin du Fless, à côté de la gare SNCF, le Jardin du Cœur des Restos et des jardins familiaux d'habitants de la commune.
Bon, bah alors dites-moi, là, pour faire de la culture, il faut des paysans.
Alors, il faut ouvriers agricoles, de la main-d'œuvre agricole.
Alors, vous êtes transformé, vous, en ouvrier agricole.
Alors, moi,
après avoir été professeur à l'école de. À l'INRA, alors vous voilà retourné avec la pelle et la pioche.
Alors, comme tout bon ingénieur agronome, je suis incapable d'être paysan dans la pratique. Donc, mon action est beaucoup plus administrative. un peu politique, puisque j'assure les relations vis-à-vis des tutelles, des partenaires, etc. Et par contre, nous avons recruté deux salariés qui sont ce qu'on appelle les encadrants de ce jardin, qui, eux, avaient des parcours leur ayant donné des compétences agricoles, mais aussi des compétences en termes de management d'équipe. Et puis, ce jardin fonctionne essentiellement avec des salariés qui deviennent donc ouvriers agricoles et qui sont les personnes que nous accueillons dans ce jardin, puisque la mission de ce jardin, c'est de faire de la réinsertion sociale et professionnelle pour des chômeurs de longue durée. Donc c'est ça la philosophie dans l'esprit général des Restos du Cœur, c'est une action d'inclusion sociale et professionnelle.
Donc les Jardins du Cœur, ça n'est pas en fait, les Restos du Cœur dans sa mission générale n'est pas que de la distribution de nourriture.
Alors, c'est vrai que depuis 30 ans, puisque nous fêtons cette année les 30 ans des Restos du Cœur, les actions de l'association se sont fortement diversifiées. Bien entendu, l'action purement d'aide alimentaire s'est beaucoup développée. L'année dernière, 1 million de personnes, je parle en chiffres ronds,
oui, oui.
1 million de personnes aidées, enfin bénéficiant de l'aide alimentaire en France, presque 130 millions de repas. Dans l'Hérault, 25 000 personnes et 2 millions de repas. Mais au-delà de cette évolution quantitative, il y a eu aussi
diversité. Que vous regrettez d'ailleurs, je pense,
oui,
cette évolution.
Malheureusement, c'est un constat d'échec. Nous avons toujours dit que le premier succès qu'on espère, ce serait la disparition des Restos du Cœur.
C'est l'objectif d'ailleurs.
On en est loin.
C'est l'objectif d'ailleurs d'une association normalement constituée.
Oui, encore que même dans une société égalitaire, florissante, humaine, il y aura toujours malheureusement des poches de pauvreté. Bon. Mais par ailleurs, les actions, justement compte tenu de l'aggravation de la situation sociale, de l'installation durable de poches de pauvreté, l'action des restos s'est aussi diversifiée vers ce que nous appelons l'aide à la personne. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aider les gens à manger, il faut aussi éventuellement les aider dans d'autres domaines, à se loger, à retrouver un emploi, à aider les enfants à l'école parce que les familles n'ont pas forcément le bagage, à s'occuper par exemple des jeunes enfants, d'aider les mamans qui peuvent avoir des difficultés, leur faire des conseils de puériculture, peut-être aider les gens dans le domaine culturel, leur offrir des sorties au cinéma, les aider à prendre des vacances, voilà, donc tout ceci représente ce qu'on appelle nous donc l'aide à la personne. Et dans cet ensemble, il y a deux actions qui sont assez fortement formalisées parce qu'elles supposent de s'inscrire dans des politiques publiques. C'est d'une part les Toits du Cœur qui ont pour objectif de loger des gens qui n'ont pas accès au logement dans le domaine privé ou qui n'ont pas accès au HLM. Qui pourraient payer un loyer, mais qui ne peuvent pas payer de caution.
En fait, vous inscrivez complètement dans l'idée de si tu veux donner à manger à quelqu'un, apprends-lui à cultiver sa terre,
à pêcher
avant de lui donner à manger. Alors écoutez, on va continuer après, parce que là, si je ne vous arrête pas tout de suite, on ne vous arrêtera pas. Je sais que c'est le sujet sur lequel vous êtes intarissable. Oui. Mais vous avez proposé quand même à nos auditeurs un passage musical, c'était d'Alain Souchon et de Laurent Vouzy, Derrière les mots.
Les sentiments, les pleurs, les...
toujours en compagnie de Monsieur Daniel Boulet, donc responsable des Jardins du Cœur. Hein, élément participatif au Resto du Cœur.
C'est effectivement une des actions,
des
Restos du Cœur. Au niveau national, il y a plus de 2000 centres de distribution alimentaire. Il y a une centaine de ce qu'on appelle donc les chantiers d'insertion, la moitié d'entre eux étant des Jardins du Cœur. Ça veut dire que cette notion de chantier d'insertion peut recouvrir d'autres types d'activités économiques. Par exemple, le Resto du Cœur, un certain nombre d'entrepôts logistiques des restos où on gère toute la distribution alimentaire, sont des chantiers d'insertion.
D'accord, qui est en Val d'Argue.
Oui, mais celui de l'Hérault n'est pas un chantier d'insertion.
Ah,
mais dans d'autres départements, il y a des chantiers informatiques, des chantiers rénovation de logement. Alors, la notion de chantier d'insertion, c'est une action des pouvoirs publics qui a démarré dans les années 80, qui a été formalisée par une loi de 2009, dite loi Borloo, qui fait partie de l'ensemble du dispositif d'insertion par l'activité économique. Cette loi et l'ensemble des dispositifs mis en place part d'une idée relativement simple et malheureusement un peu cruelle, c'est que on a constaté que quelqu'un qui est au chômage depuis très longtemps, même s'il retrouve un emploi, souvent c'est un échec. Pourquoi ? Parce que être resté 10 ans ou parfois plus cloîtré chez soi, désespéré de retrouver une activité, se retrouver subitement un matin à 8 heures pour embaucher, respecter les consignes de travail, obéir à son chef, souvent ça se passe mal.
Il faut réapprendre à se lever.
Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour des personnes en chômage de longue durée, très désocialisées, souvent éventuellement dépressives, voire en addiction, il y a un choc qui fait que ça peut se traduire par un échec. Et donc la notion d'insertion par l'activité économique, c'est de proposer un SAS, une phase intermédiaire entre le chômage intégral et le vrai emploi. Et ce qu'on appelle un chantier d'insertion, c'est une activité économique dans laquelle on recrute des chômeurs, ils deviennent salariés, mais ils sont salariés sous deux contraintes. Ils sont salariés à temps partiel, parce qu'on part du principe que reprendre tout de suite une activité à plein temps, c'est trop brutal, et pour une durée limitée. Et en même temps, ils restent chômeurs, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que ces gens-là viennent chez nous, si je prends le Jardin du Cœur de Villeneuve-les-Maguelones, ils sont chômeurs, on les sélectionne, donc moi je les vois en entretien. Après, si moi je les sélectionne, ils vont voir les deux encadrants du jardin qui donnent aussi leur point de vue. Si tous les trois on est d'accord, on recrute cette personne. On va la recruter sur ce qu'on appelle un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion de 6 mois.
Merci d'avoir traduit le sigle.
Voilà, oui. Il y a beaucoup de jargon. Et 20 heures par semaine, c'est-à-dire qu'on bloque leur temps de travail sur 3 jours. Pour leur laisser du temps libre à côté et pour limiter les déplacements qui coûtent cher.
Alors vous avez, donc, excusez-moi, je vais vous interrompre, mais vous m'avez dit, on les sélectionne.
Oui.
Alors, quelle est la base de cette sélection ? Excusez-moi de venir un peu là-dessus.
Parce alors, que... pour vous donner l'ordre de grandeur du problème, depuis que le jardin existe, puisque j'ai fait tous les entretiens, nous avons reçu à peu près un peu plus de 800 candidatures. J'ai vu en entretien un peu plus de 500 personnes. Et là-dessus, nous en avons recruté à peu près la moitié, c'est environ 250. Ça veut dire que nous recevons des curriculum vitae. La grande majorité sont envoyés par des associations, des structures d'accompagnement des chômeurs ou par Pôle emploi. Donc des gens qui sont déjà suivis dans leur chômage, qui connaissant l'existence et le rôle du Jardin du Cœur, nous adressent des candidatures, ce qui permet d'avoir en plus des commentaires sur la situation des gens. On reçoit plus de candidatures que de capacités d'accueil dans le jardin, donc on fait forcément des sélections d'abord sur dossier. C'est très subjectif. On essaye de savoir si cette personne, c'est intéressant de l'accueillir, si on pourra vraiment l'aider, si, compte tenu de son parcours, de ce qu'on sait faire. Donc, bon. Donc moi, je vois un certain nombre de gens en entretien. Je fais une deuxième sélection parce que pendant l'entretien, je découvre la personnalité de la personne, j'apprends des choses complémentaires, je peux être amené à penser que cette personne est trop cassée, entre guillemets, en ce moment, c'est prématuré,
on risque d'aller à l'échec,
ou bien elle est venue, mais à reculons, parce qu'on lui a mis l'épée dans les reins, et elle n'a pas envie de venir, donc ce n'est pas la peine. Bon. Et donc, ceux que je présélectionne, je les envoie au jardin, qui eux-mêmes discutent boulot, voient un peu la motivation, l'intérêt. Bon. Et donc, malheureusement, on est obligé de trier.
Hein, oui, parce que vous êtes aussi sur des activités très particulières. Alors, finalement, voilà. Celles où, effectivement, on est dehors, où on est, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, ou voilà. Bah, quand il faut cultiver, il faut cultiver. Hein, et quand il faut arracher des patates, il faut les arracher, quoi, je veux dire.
Oui, d'un point de vue anecdotique, je peux vous citer deux cas. On a recruté une jeune dame une fois qui a dit « Moi, si je croise une araignée, je m'en vais, je démissionne. » Bon, si on avait pu le savoir avant la recruter,
ça aurait simplifié les affaires.
Voilà. Et une deuxième qui nous a dit « Pour des raisons physiques, si vous me demandez de bêcher, je suis obligé de me coucher par terre. » Je ne peux pas travailler plié.
Bon. Oui, c'était un peu la question que j'allais vous poser.
Ce sont des cas extrêmes. Non, nous, ce qu'on essaye de tester, c'est d'abord la volonté de la personne de s'en sortir, parce que c'est quand même ça au départ. C'est est-ce que la personne qui galère depuis des années est dans un état psychologique où elle a envie cette fois, enfin. Qu'elle piaffe, qu'elle est déterminée, elle sait que ça
va être
difficile.
Qu'elle ne s'est pas installée, en fait, dans sa...
Qu'elle n'a pas, par ailleurs, des difficultés de santé. Je fais allusion aux addictions. Si quelqu'un est dépendant d'un produit psychotique, est-ce qu'elle est suivie médicalement? Si elle n'est pas suivie, il faut d'abord prendre en charge son problème de santé avant de prendre en charge son problème d'emploi. Donc, tout un ensemble d'éléments. Ensuite, nous prenons les gens en charge et nous avons comme mission simple, c'est de les ramener au travail, de leur trouver un emploi, entre guillemets un vrai emploi, à l'issue des 6 mois ou avant.
Alors, je vous remercie, on va vous remercier pour cette série aussi de cette intervention et cette précision, en fait, sur votre travail, finalement, en profondeur, que l'on ne connaît pas, que nos auditeurs connaissent mal, peu. Et avant de passer sur une troisième partie, on va parler plus spécifiquement, effectivement, des aides européennes. On va vous proposer à nos auditeurs d'écouter Louis Armstrong dans une musique. Alors, je vais essayer de le dire à peu près correctement. Basin Sweet Blue.
Thank you.
Eh bien, toujours en compagnie de Monsieur Daniel Boulet, responsable donc des Jardins du Cœur, sur Radio FM Plus, 91 MHz à Montpellier, 103.1 à Nîmes. Combien vous accueillez de personnes en même temps dans vos chantiers? Alors, comment on va appeler ça?
Chantier d'insertion. Voilà. Chantier d'insertion, c'est la dénomination légale. Le Jardin du Cœur, c'est notre marque.
Voilà, c'est la marque.
Alors, nous sommes agréés par les pouvoirs publics, par le ministère du Travail. À la création en 2004, nous avions un agrément de 12 places d'accueil. Aujourd'hui, nous avons un agrément de 15 places d'accueil. On a agrandi le site, on a renforcé l'équipe d'accompagnement. Mais ces 15 places, en fait, comme les gens sont sur des contrats de 6 mois, parfois moins, parfois plus, puisqu'on peut le renouveler une fois, sur une année civile, il passe entre 35 et 40 salariés au jardin.
Mais dites-moi, à 7h-9h, ça doit être un peu compliqué à gérer de temps en temps.
Alors, disons que comme ils sont à temps partiel, ce sont des équipes qui...
Il y en a
une dizaine, entre 10 et 12 chaque jour.
Oui, parce que les carottes, quand elles poussent, elles n'attendent pas qu'un nouveau une nouvelle personne vienne pour continuer à pousser.
Notre difficulté, c'est que, comme vous le savez, il y a des saisons en agriculture.
Eh oui.
Actuellement, il n'y a pas énormément de choses à faire, si ce n'est de préparer les terrains, entretenir le site. Et quand on est en pleine production, en récolte, on a beaucoup plus de besoins de main-d'œuvre. Donc, nous avons la possibilité de moduler les accueils sur l'année. Mais c'est assez compliqué à gérer.
Ouais. Alors, question, quand la production arrive, qu'est-ce que vous en faites de cette production?
Alors,
vous allez la vendre?
Nous avons créé des jardins au Resto du Cœur, tout simplement, parce que ça nous permet de faire des circuits courts, puisque tout ce que nous produisons est directement distribué dans les centres de distribution alimentaire de l'Hérault. Du moins ceux qui sont autour de Villeneuve, sur Montpellier.
Donc ça améliore,
Ça permet d'apporter des produits frais de qualité dans les centres, et ça donne un plaisir particulier aux jardiniers, parce que la plupart d'entre eux, quand on les recrute, malheureusement ont déjà fréquenté les Restos du Cœur, donc ils savent ce que c'est que d'aller dans les centres pour bénéficier de l'aide alimentaire, et ils sont fiers de pouvoir contribuer à produire des aliments de bonne qualité pour les gens qui sont dans les centres. Donc c'est un facteur de motivation pour nos salariés.
C'est un facteur de motivation. Voilà. Dites-moi, là, on a parlé des facteurs de motivation, des gens, de votre équipe, d'encadrants, des gens que vous avez embauchés. Il y a un facteur dont on n'a pas parlé, c'est les sous.
Oui.
Les sous, l'argent, d'où ça vient? Alors, je sais qu'effectivement, au niveau des Restos du Cœur, il y avait les surplus de l'Union européenne qui étaient utilisés, mais
pour les jardins, ça ne nous sert pas.
Ça ne nous sert pas.
Alors, dans la mesure où nous sommes une exploitation maraîchère avec des salariés, nous avons besoin de payer les salaires, y compris les salaires des deux encadrants du jardin. Bon, moi ça va, je suis bénévole, donc je ne coûte rien en dehors de ma retraite. Et nous avons besoin aussi d'un petit budget de fonctionnement, parce qu'il y a des consommations, il faut des semences, des graines, il faut des produits du traitement, il faut un peu de matériel. Bon, donc le fait que nous soyons agréés par les pouvoirs publics nous ouvre droit à des financements publics. Donc nous avons trois tutelles financières: l'État français, par le ministère du Travail, qui, pour l'essentiel, paye tout ou partie des salaires des jardiniers. Nous avons le département de l'Hérault, qui nous verse une subvention de fonctionnement et qui participe au financement des salaires lorsque les salariés que nous recrutons sont allocataires du RSA, puisque le département nous a conventionné. La contrepartie de leur participation financière, c'est que nous devons accueillir 80% des gens que nous recrutons qui soient allocataires du RSA. Et le troisième financeur, c'est l'Europe, via le Fonds social européen. Et dans ce FSE, le programme national français emploi et inclusion. Et le FSE nous fournit une subvention de fonctionnement conséquente via le département de l'Hérault.
Oui, alors vous êtes effectivement dans le cadre 9 qui s'appelle effectivement promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté.
Oui.
Ça fonctionne bien ?
Alors, article 1, c'est généreux, le financement de l'Europe est correct. Article 2, malheureusement, nous sommes en bout de chaîne des procédures européennes et il y a une mécanique un peu bureaucratique et un peu infernale, mais ça existe aussi avec les financements de l'État français et avec les financements du département de l'Hérault. L'ennui, c'est que moi, je suis confronté aux trois tuyauteries, aux trois procédures, et je dois rendre des comptes à tout le monde de façon incontournable.
Donc
et parfois, c'est un peu paranoïaque.
Donc, il faut savoir parler trois langues. État, département et Europe.
Oui,
il y a trois langages différents, là.
Oui, et c'est bon, cela dit, c'est la condition pour que nous ayons des financements.
Je crois que c'est la condition pour beaucoup de programmes européens.
Jusqu'à présent, ça fonctionne. Simplement, ce que nous disons, c'est que si, par exemple, mon activité, je ne suis pas le seul bénévole dans cette action, devait être faite par des salariés, peut-être nous n'aurions pas créé le Jardin du Cœur. Parce que le coût de fonctionnement et d'administration est assez exorbitant par rapport au coût réel de travail sur le terrain. C'est un peu le côté un peu dommageable de ces procédures qui partent d'excellentes idées mais qui se traduisent par des procédures un peu bureaucratique.
Eh bien, écoutez, donc, monsieur Daniel Boulet, on va vous remercier d'avoir fait partager votre expérience avec nos auditeurs, hein, parce que je vois que là-bas, du côté des techniciens, ils vont me fâcher, on va dépasser trop le temps. Hein. Alors, eh bien, écoutez, merci d'être venu.
Merci de votre accueil.
Et n'oublions pas que, peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être besoin aussi encore, vous, de bénévoles. Et donc, ils peuvent s'adresser à vous pour...
Ils peuvent s'adresser au siège, ils peuvent consulter le site des restos. Et de toute façon, on trouve toujours les restos du cœur n'importe où.
Eh bien, merci et bonne journée à tous nos auditeurs.